Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 22h à Istanbul, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, en Arabie Saoudite, une première journée de pourparlers difficile entre Russes et Américains sur une possible trêve en Ukraine. Avec au cœur des négociations aujourd'hui un possible cessez-le-feu en mer Noire afin de permettre un retour à l'accord céréalier. Toujours l'ébullition en Turquie après l'incarcération du maire d'Istanbul. La contestation ne faiblit pas. De nouveaux appels à manifester ont été lancés aujourd'hui à travers tout le pays. Protestation également en Israël contre la dérive autocratique de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui malgré l'avis contraire de la Cour suprême, intensifie la pression pour limoger le chef du Sinn Bet, l'agence de sécurité intérieure. Enfin en France, Gérard Depardieu jugé pour agression sexuelle à Paris, l'acteur français de 76 ans est accusé d'agression par deux femmes sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Et direction la Turquie pour commencer, où la contestation ne faiblit pas et menace même de se durcir après déjà 6 jours de manifestations pour protester contre l'incarcération du très populaire maire d'Istanbul, le rival politique du président Erdogan. De nouveaux appels à manifester ont été lancés dans tout le pays aujourd'hui. On rejoint tout de suite sur la place de la mairie à Istanbul notre correspondante Céline Pierre Magnani. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Et la tension ne retombe donc toujours pas en Turquie.
Non, au contraire, la tension monte encore d'un cran ici à Istanbul ce soir. Vous l'entendez derrière moi. Le chef de l'opposition, Gürsel, vient de prendre le micro derrière moi. La foule scande des slogans Erdogan démission. Le chef de l'opposition a notamment accusé les chaînes pro-gouvernementales comme CNN turque de partialité ces derniers jours pour ne pas avoir diffusé des images des mobilisations. Comme tous les soirs, une forte population étudiante avec des banderoles équipées aussi contre les gaz lacrymogènes. Plusieurs collectifs d'étudiants ont décidé d'appeler à boycotter les rangs des facs. Il y a également des appels à un boycott économique qui sont lancés sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et en face, Recep Tayyip Erdogan s'agace et mouche le ton. La répression se fait plus féroce chaque jour. Des images de violences policières circulaient aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ce matin, plusieurs photojournalistes ont été arrêtés lors de perquisitions à leur domicile. Au total, c'est plus de 1000 personnes qui ont été interpellées depuis ces jours. Le président Erdogan a prévenu que le parti Imamoglu serait tenu responsable des blessures infligées aux policiers et les dégradations commises en marge des rassemblements.
Céline Pierre Magnani, en direct d'Istanbul. En Israël, des manifestations d'ampleur également face au coup de force de Benjamin Netanyahou qui intensifie la pression pour limoger Ronen Bar, le chef du Sinn Bet, le premier ministre israélien pris dans un bras de fer avec la Cour suprême qui, elle, a suspendu de son côté cette éviction. Des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues ces derniers jours pour dénoncer la dérive autocratique du chef du gouvernement et la reprise des bombardements sur Gaza au mépris, disent-ils, de la survie des otages. Des otages dont une trentaine seraient encore vivants. Pour la première fois depuis la rupture de la trêve par Israël la semaine passée, le Hamas a diffusé une vidéo de deux d'entre eux, Ekana Boot et Yoef Haim Ohana, qui avaient été enlevés au festival Nova le 7 octobre 2023. Et dans cette vidéo, ils appellent à un retour au cessez-le-feu à Gaza. La correspondance de Samy Bourlefa.
Non, il ne s'agit pas d'une vidéo de propagande, assurent d'emblée les deux otages qui s'expriment pourtant sous la contrainte. Le Hamas ne nous a rien demandé, il ne nous dicte pas ce qu'on doit dire, c'est au contraire nous qui avons supplié qu'on nous laisse prendre la parole. La vidéo dure 3 minutes. Leur message, un appel à l'aide. Avant la trêve, tous les points de passage de Gaza étaient fermés par Israël et on avait à peine de quoi manger. Durant la trêve, notre situation s'est améliorée, explique-t-il. Mais depuis le 18 mars et le retour des bombardements, le gouvernement israélien a décidé de signer notre arrêt de mort, poursuivent-ils. À la suite d'une frappe hier, j'ai failli perdre la vie, raconte l'un des deux otages. À travers cet enregistrement, le Hamas envoie un message aux autorités israéliennes. Seul le cessez-le-feu permettra le retour de vos otages. Le moment de diffusion n'a pas été choisi au hasard. Selon des informations de presse, le médiateur égyptien aurait proposé un nouveau cessez-le-feu en échange d'informations et de vidéos sur l'état de santé des otages. Ils sont 59 toujours détenus dans la bande de Gaza, 24 sont présumés vivants. Samy Bourlefa, Jérusalem, RFI.
Aux États-Unis, cette incroyable faille de sécurité, sans doute la plus retentissante dans l'histoire militaire américaine récente, un journaliste a reçu par erreur des informations militaires confidentielles sur des frappes à venir contre les rebelles houthis du Yémen le 15 mars dernier. La Maison-Blanche a confirmé ce soir que Jeffrey Goldberg, le rédacteur en chef du magazine The Atlantic, avait été inclus par erreur dans une boucle de discussion ultra confidentielle. Il avait ainsi reçu directement du ministre de la Défense américain, Pigexef, le plan d'attaque 2 heures avant que les frappes ne commencent au Yémen. Après les Ukrainiens, hier soir, les négociateurs américains sont désormais réunis avec les Russes en Arabie Saoudite, en pleine discussion pour trouver les voies d'une possible trêve en Ukraine. Des négociations qualifiées de difficiles par le Kremlin et qui portent notamment aujourd'hui sur l'examen d'un possible cessez-le-feu en mer Noire afin de permettre un retour à l'accord céréalier qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales entre 2022 et 2023 malgré la présence de la flotte russe dans la zone. Toujours pas invités à la table des négociations, les Européens, eux, multiplient les déclarations de soutien à l'Ukraine. À Paris, une cinquantaine de dirigeants centristes européens ont ainsi signé aujourd'hui une déclaration commune sur l'Ukraine et la défense européenne. Un sommet organisé par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, le patron de Renaissance. Reportage Victorien Villaume.
Après la photo de classe, l'heure du bilan, Gabriel Attal se félicite de son opération qu'on pourrait baptiser « Les libéraux européens montrent les muscles face à l'extrême droite ».
C'est un pas de géant vers une véritable alliance puissante, capable de s'imposer face au rouleau compresseur réactionnaire qui remet aujourd'hui en cause nos valeurs.
5 engagements sont pris, parmi lesquels soutenir l'accélération des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE.
Pour que des députés européens ukrainiens observateurs puissent siéger dès l'année prochaine au Parlement européen.
Mais aussi trouver les moyens juridiques pour utiliser les avoirs russes gelés, explique Michal Kobosko, député européen de Pologne.
Il y a plus de 200 milliards d'euros d'avoirs russes qu'on pourrait facilement utiliser. Et on ne peut pas juste l'oublier, on ne peut pas nous dire simplement « ne touchez pas cet argent », non.
Présent également pour soutenir son camp politique, le député européen du Danemark, Morten Løkkegaard.
Les forces démocratiques endurent une forte pression à travers le monde, surtout en Ukraine, mais aussi dans le reste de la communauté européenne. En tant que libéraux, on est à l'avant-garde de ce combat, donc c'est très naturel qu'on essaie de s'unir encore plus.
Et les libéraux européens comptent d'ailleurs renouveler l'exercice à Bruxelles cet été, bien conscients qu'ils ont besoin de se faire entendre après leurs résultats décevants aux élections l'an dernier.
En France, toujours, c'est un procès retentissant qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris, celui de l'acteur Gérard Depardieu, accusé par une décoratrice et une assistante réalisation d'agressions sexuelles lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Un film dans lequel a joué Anouk Grimbert, l'actrice qui, depuis décembre 2023, a multiplié les prises de parole pour accuser Gérard Depardieu d'être un agresseur, mais aussi dénoncer le silence assourdissant du monde du cinéma. Et elle est venue aujourd'hui soutenir les parties civiles à l'audience.
S'il était capable de dire la vérité, autant qu'il est capable de produire de la vérité quand il joue la comédie, s'il était capable de ça, ce serait une avancée pour le monde entier. Parce que c'est dans le monde entier que les femmes sont violentées et violées. Et vraiment, mais vraiment, on est fatigué de ça, quoi. J'attends de lui, mais je ne sais pas si je peux encore attendre de lui quelque chose de normal, parce que je pense qu'il est devenu fou à force d'être dans un milieu qui lui permet tout, qui applaudit toutes ses dérives et ses violences. Mais depuis que les femmes, les victimes ont porté plainte, il s'est passé quelques mois, peut-être qu'il a réfléchi. Mais j'ai bien peur que ses conseils, son avocat, ses amis, tous les gens qui l'entourent l'invitent à mentir, à travestir la vérité, qui ne fait pas de doute. Il y a plein de témoins dans l'affaire qui va être jugée aujourd'hui. Il y a plein de témoins. Et puis de toute façon, tout le monde sait.
L'actrice Anouk Grimbert au micro de Laura Martel et puis signe d'une ambiance tendue ce soir au tribunal. Cette actrice, Anouk Grimbert, a été priée de quitter la salle. 20h10 à Paris, c'est la fin de cette édition. Restez sur RFI dans un instant, c'est Accent d'Europe.